Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir. Nous sommes ravis d'accueillir la poète, écrivaine, performeuse Joyce Rivière pour une lecture de son recueil « Votre monde en cendres » paru aux éditions Blast. On remercie aussi les éditrices d'être présentes ce soir. Voilà, je vous souhaite une belle lecture et si après vous voulez poser des questions, c'est possible. Et puis il y aura peut-être aussi un temps d'échange plus informel qu'avec le micro. Voilà, merci, bonne lecture.
Alors bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier la librairie Terra Nova et Blast pour cette rencontre. Et aussi vous dire qu'en fait il y a 7 ans, je squattais souvent cette librairie à Toulouse pour bouquiner en cachette des trucs. Et donc du coup, me retrouver là, c'est un peu une nouvelle aventure, quoi. Voilà. Du coup, moi je fais ça. Je sais qu'il y a des gens, ils le font pas trop, mais moi je fais ça. J'avertis un peu quand même ce que je lis. Le contenu, c'est, ça parle pas mal de transphobie, ça parle pas mal de sexualité, ça parle aussi de suicide, de meurtre. Donc voilà, vous êtes avertis et bienvenue dans cette aventure. Fragment 7. Baisons dans le vieux Lyon. Contaminons de nos fluides les pavés des fascistes. Baisons dans le vieux Lyon. Les touristes en berne pendant que je te baise. Baisons dans le vieux Lyon. Dans les traboules graffées de part en part, je me perds dans ton regard qui annule les « vive la mort » et les envies de détruire la nuance. Toi et moi, mon amour, dans le vieux Lyon, baisons. Avec nos intelligences de pédale, ma main sur ta chatte et toi contre le mur, debout tes jambes s'écartent et se débattent, tu es mouillé de nos luttes, ma main sur ta chatte tape sur le rythme de tes envies, te faire jouir, c'est proclamer que nos cris appartiennent aux étoiles et à la destruction des bruits de bottes qui hantent nos rêves. Entière à toi, je me frotte. Ma main ne te lâche pas. Alors que ton visage se crispe, que tu t'essouffles, que tu te plies en deux, que je lèche ton visage, que je te tiens les cheveux et que ma main droite joue une partition improvisée sur ta vulve contre ce mur décrépit où des plantes poussent. Tu es si beau quand tu atteins un plateau. J'aimerais recouvrir les murs du vieux Lyon de toute notre mouille, de nos salives, de nos petites traces de merde, de nos larmes et des marques de nos dents laissées partout sur nos corps, au sang. Fragment 5. Je nais à la Pléiade. Rage, 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 rage. Je nais à la Pléiade, où les pauvres, pauvresses du cul, ne pourront lire ce qui a été censuré, où le bourgeois pourra lire dans son papier bible les enculades, les bites sucées jusqu'à la garde, que l'État hétéroflique a effacées, pendant que des petits lardons périmés appelaient et appellent encore à la guerre civile. Je nais à la Pléiade. Libraire, ceci est un hold-up. Rendez-nous ce qui nous revient. Je nais à la Pléiade, le pistolet à bouchon braqué sur vos visages comme un jeu de mauvais gosse, que personne ne bouge. Remplissez nos sacs de « je nais à la Pléiade », nos sexes tendus pour rejoindre l'écume des plages. Ceci est un braquage, d'aucun goût que celui de nos sueurs que nous léchons pour ne pas mourir de la soif, provoquée par les petits lardons périmés. On veut Genet entier. Nous, enfants du bizarre, du noir, du cul encore, sale qu'une langue vient titiller. Nous, enfants de la glotte ouverte, pour accueillir les plus gros des braquemars. Nous demandons sans condition la piraterie de Genet. Nous, enfants des voyages sans assistance, drogués et pleins de dépendance, qui souillons nos rêves de baises interdites par vos coups de coude. Nous voulons le retour de Genet dans nos lits, et de l'art anormal d'une chatte fistée, d'un corps recouvert de verre brisé, d'une plume dans le cul comme ultime expression de l'art. Ma bouche ouverte dilate, des régions encore inconnues. Nous qui sommes si sales, et sans autre résidence que les chambres d'hôpital, nous qui sommes si sales, nous volerons Genet à la Pléiade. Les chiens chiennes battues. Ce corps que je soutiens porte en lui tant d'ouvertures, poreuses jusqu'au point de l'explosion. J'accumule, sur ma peau des fissures, et par tous les orifices ça craque et grince comme une horloge abandonnée. Je me délabre et me délivre. À l'intérieur ça crie et ça chante. Et ça raconte des histoires. Ça raconte l'histoire de murs recouverts de lierre. Ça raconte l'histoire de murs recouverts de sang. Ça raconte l'histoire de murs détruits désormais. Pour laisser circuler, que ça passe, que rien ne se casse, pour que tranquillement tu marches. Sur mes os, accumulées. Sur ma salive, accumulée. Sur ma sueur, accumulée. Sur mes larmes, accumuler, et que tu en fasses une belle histoire à raconter à tes enfants et aux enfants de tes touristes. Et pourvu qu'il y ait de l'amour, car avec l'amour, on pardonne tout. L'histoire de chien, chienne battue, ça te plaît? Tu aimes ça? Ça te fait jouir? Ça te plaît? De te branler sur ma misère, ça te plaît? De t'exciter sur ma précarité, ça te plaît? De vendre ma peau pour te couvrir les soirs d'hiver, ça te plaît de sécher ma langue arrachée pour en faire un cendrier, pour tes soirées philosophiques et tes débats interminables sur quelle conscience historique et les amitiés que tu mets à ta table. Dans ma niche, je collecte les articles pour organiser nos vengeances. J'écris le nom de Marsha P. Johnson et celui de Sylvia Rivera. J'écris le nom de Leslie Feinberg et celui de Lou Sullivan. J'écris le nom de la Veneno et celui de Krista Steele Kunstnian. J'écris le nom de Anne de Kader et celui de Catalina. J'écris le nom de Venus Extravaganza et celui d'Ovida Delect. Et j'écris mon propre nom comme possibilité posthume. J'écris le nom de mes amants, amantes, amis, camarades pour conjurer la défaite et le recul qui nous tend. J'écris pour nous donner de la force, je recouvre les ruines de nos traces afin que les ruines répondent aux ruines. Et je crie à la lune nos noms pour que dans nos insomnies nous reprenions la nuit, et que dans la nuit les décombres soient l'écho de nos fantômes ressuscités, qu'ils frappent à vos portes et demandent rétribution pour tous les coups, les meurtres, les viols, et pas même la police qui garde vos prés ne pourra faire quelque chose face à ceux qui se préparent, jusqu'à ce que vous payiez votre part, ou même l'éternité ne suffira pas, et cette police aussi paiera, pour les cheveux retenus dans l'eau des toilettes, pour leurs mains qui nous ont forcés à sucer leur queue, pour les brûlures et l'assassinat des putes, cette police paiera. Écoute bien, c'est la mémoire des vaincus qui aboie. Écoute bien, ce sont les chiens, chiennes battues qui aboient. Écoute et prends peur. Écoute, la fête est finie. Tu ne pourras plus dormir tranquille. Écoute, les cendres des sorcières ont fait pousser de nouvelles forêts. Écoute, nous descendons de ces arbres-là. Écoute, les ruines qui murmurent nos peaux. Ma langue est coupante comme le rasoir. Ma langue chante les souvenirs de la maison que tu as détruite pour tes passages d'autoroute. Ma langue chante les souvenirs que tu m'as volés. Ma langue chante les oublis que tu m'as imposés pour être marchandise et te prouver mon existence et m'inscrire dans l'histoire. Ton progrès qui pille, ton progrès qui assassine, ton progrès qui colonise, ton progrès qui pollue, ton progrès qui appauvrit, ton progrès qui possède les corps pour en faire des pantins de chair froide. Et sur mon corps, je me modifie comme un virus. Je mute tes territoires et contamine tes frontières, y opère des trous, creuse des artères. Alien, aliéné, aliénante, je frappe contre les murs, je multiplie mes mâchoires indéfiniment, je projette mon sang, je ronge les édifices, je nourris tes précipices, mes larmes, une pluie acide qui fait fondre tes certitudes en un amas de terre calcinée, mes larmes, des pluies acides que tu bois à pleine gorgée qui perforent tes oesophages, perforano il tuo oesophagio, ronge tes intestins, rondono il tuo intestini, éclate tes vesicules, fano esplodel le tue vesci, broie tes testicules, stritolano i tue testicoli, forme des hémorragies, formano hemorragie, partout se remplissent, dappertutto si ripieno, des piscines de vengeance, piscine divenente pour nos orgies, per le nostre orgie. Nous avons faussé les cartes pour que tu nous perdes. Nous avons découpé tes camisoles pour dissimuler nos seins. Nous avons saisi tes bandeaux pour tromper ton regard et nous construisons des ponts pour tes ennemis innombrables. Et alors, à force de parler de toi, je me sens impuissante et comprends que ton jeu consiste à me maintenir dans l'épuisement. C'est à ta médiocrité que je tourne le dos. C'est à tes mots que je tourne le dos. Pour écrire une autre grammaire, une grammaire de survie et une grammaire de contre-mort, une grammaire qui trompe les signes et les sens, une grammaire qui élargit nos béances, une grammaire qui nous réunit, ou se rencontre, s'emboîte, se lèche, se caresse, se boive, se retourne, se remue, se découpe, se pince, se pique, se désaxe, se dévore, se regarde, se foule, s'entrechoque, se fesse, se griffe, les chiens, chiennes battues. Une grammaire qui se dédie, se lie, s'attache, s'affectionne, se vit, se crie, se court, se saute, se lave, se roule, s'écarte, s'ouvre, se jaillit, se pénètre, se rugit, se saigne, se plonge, se prolonge, se gicle, s'agrippe, s'applique, se concentre, se décentre pour les chiens, chiennes battues. C'est une grammaire de partenaire de crime. Que ma peau soit support découpé d'écriture, ma viande étalée au regard de secrets exhibés, encodés, de mon amour des multiples toits. Drapé d'un foulard bleu délicat, je ne sais pas où est ton ciel. Des perles de soleil qui nagent sur ta peau et des rêves de ton pelvis contre mon genou, je tente de faire monter mes températures afin que mes pensées s'évaporent et ne laissent sur la vitre que la buée. Feuille de verre sur laquelle se colleraient tes lèvres, et ce souvenir d'un papillon de papier perdu, qui serait moi, recyclé dans tes détritus, et mes voiles qui se dressent au boulet de la capitaine, toujours fidèle, aux multiplications. Je m'ajoute à ta puissance, je m'assemble à ta main, qui creuse de nouvelles lettres à l'intérieur de moi, inscrit des phrases à la surface de ma prostate pendant que muette, mon sourire et mes fins sont engourdis. Par l'étendue nocturne de tes alphabets, où je choisis mes blessures et mes étouffements, où tes écumes, ou mes écumes, ou nos écumes se mélangent, courants contraires qui se rencontrent, dévastent leurs barrages et leurs stations, où les ruines se mélangent à nos eaux abandonnées. J'étire à l'infini mes tendons, à l'extension de nos noms, chiens, chiennes battues, innombrables et pullulantes, chiens, chiennes battues, innombrables qui chantent et jouissent de leurs vulves multiples et invisibles. Ça vous est toujours là ? Tout va bien ? Fragment 9. Retournement de situation. Narcisse dans sa tour ne voit plus le reflet dans la pluie. Il faut imaginer une Narcisse malheureuse. De ne plus voir son reflet. Nulle part. La cantatrice chauve portait une perruque. Mais Eugène n'en avait pris compte. Trop occupé à assassiner les petites filles qui persistaient à ne pas apprendre leurs leçons. Retournement de situation. Les petites filles ont transpercé de part en part le corps d'Eugène. crayon après crayon dans sa peau molle et visqueuse qui s'appelle littérature. Les petites filles étaient ravies de leur œuvre, mais préféraient brûler les restes plutôt que de les confier à un musée. Quelle est la subjectivité, hurlèrent alors à l'unisson la cantatrice à la perruque laquée, Narcisse sans reflet et les petites filles assassines. Il faut encore inventer. Mais la caméra répète nos sommeils, répète nos rituels. Elle convoque les spectres. La cantatrice disparaît. Retournement de situation. Mon cœur de pédale ramasse les morceaux, augmenté par la poussière et les bactéries. Mon cœur est un cyborg oogie-boogie qui s'organise en manuscrit. Ici Gwyn, ici pédale, pendant que je fixe les acrobates pendus au balcon comme des jouets en plastique. J'extirpe et j'expire. Je lis tes mots dans mon foutoir impénétrable. La cantatrice a laqué sa perruque. Elle me sourit. Moteur. Fagment 10. S'il vous plaît, après mon opération, donnez-moi mes couilles dans un bocal que je puisse les éclater face au public en hurlant tout ce qu'on a projeté sur moi. Action. S'il vous plaît, laissez-moi manger les cendres des lettres qu'on m'a forcé à brûler. Action. Les petites filles assassines courent dans le parc, taillent les haies et les gorges des voyeurs. La cantatrice filme un plan large sur Narcisse qui cherche désespérément son reflet dans une flaque, alors que même les oiseaux n'ont plus de quoi boire. La cantatrice secoue son éventail de mécontentement. Narcisse n'a pas de charisme à la caméra. Narcisse pleure et aimerait que ses larmes soient suffisantes pour qu'elle puisse se voir enfin. Action ! Jusqu'à quelle extrémité mon corps serait prêt à aller ? Jette ton nom. Jette ce qu'on t'a dit d'être. Porte ton désir en bannière, me dit la cantatrice qui cette fois a choisi une perruque bleue électrique. Mais ne jette pas tout. N'oublie pas que la tendresse est toujours là. Laisse-la. Laisse-la, la caméra, te caresser. Action. Mon corps que je retourne comme un gant. Action. Donner des coups de pied à la réalité, à ce qu'elle m'a empêché d'être. Action. Nous n'étions rien. Soyons fiction. Action. Jette le souvenir de ton père. Dévore-le sans pitié. Et laisse ta mère croupir dans ses étangs. Tu ne seras jamais seule. Plus jamais, me dit la cantatrice. Action. Parfois je rêve de toi et je ne sais pas si c'est du passé ou des choses à venir. Action. Je me lève et te chante une aria dont toi seul pourrais comprendre les paroles composées de nos soupirs quand nos peaux s'écoutent. Fragment 11. À Samuel, jeune PD assassiné sous les coups de 12 mecs cis-hétéros homophobes sous merde du patriarcat. Je regarde ton visage dessiné sur les réseaux sociaux. Tu es si beau. Et mon esprit est démuni. Te voilà mort, sans pouvoir continuer notre histoire. Un de moins. Toutes les insultes qu'on pourrait entendre avant de mourir. Toutes les insultes que nous retournons aux envoyeurs qui méritent la pire vie possible. L'hétérosexualité tue. Et ton silence infini désormais en est la preuve. Les drapeaux agités dans le ciel ne servent à rien. Si ce n'est pas pour le combat. Offensive arc-en-ciel, noir, bleu, pastel et rose contre l'ennui blanc de l'hétérosexualité. La cantatrice chauve a mis sa perruque noire et te chante un cold song poignant, comme la caresse d'un amant quand il nous encule. La rage et les larmes inondent nos lits pour toi qu'on n'a pas pu défendre, parce que nous sommes si loin et si divisés. Samuel, j'aimerais que tu me dises que ce n'est qu'une farce. Que tu t'étais caché dans un placard pendant qu'un mannequin en chiffon était mis à mort. Samuel, j'aimerais que tu ris et me dises « Ineni, me voici ». Et que ton rire perce les cieux et nourrisse nos espoirs. Que les oiseaux chantent pour toi et déposent sur ta tête une couronne faite des plus belles fleurs que les nuages auraient gardées précieusement pour ta venue. Samuel, raconte-moi ce qu'il nous reste à faire. Je pleure en imaginant ce corbillard qui t'emporte et la lumière qui te ravit. Les filles assassines ont mis du verre pilé dans 12 verres de sangria, que leur ventre ressente nos déchirures et nos peurs de perdre les aimés aimés de nos vies. Samuel, me voici. Je t'écris. Moi qui eus la chance d'échapper aux menaces de mort quand un militaire voulait me faire sucer le canon de son flingue. Samuel, me voici. Je t'écris. Voici deux pièces. J'espère que la passeuse sera indulgente avec toi. Adieu, Samuel. Toi que je ne connaîtrai jamais. Je ne suis qu'une écrivaine qui écrit pour elle-même. J'ai honte de ne pouvoir t'en dire davantage quand la mort, sans cesse, nous ravage. Je peux encore lire si vous voulez. Ok. Je vais essayer de lire des trucs un peu plus... Allez. Fragment 16. Ton chien blanc caressait ta main. Pendant que Marxou, mon chien donc, essayait de jouer avec lui. J'avais remarqué les bracelets de coquillages autour de tes mollets. Je me demandais si tu voulais boire un thé chez moi. Je me demandais si on se draguait. J'étais sûr que c'était le cas. Tes cheveux coiffés en arrière et attachés en queue de cheval, quand c'est la tienne que j'aimerais attraper et l'honorer, la nettoyer de la transpiration estivale, avec ma langue. Mais c'est toujours le danger, que tu n'en sois pas et que tu me traites de sale pédale. Ce qui est en partie vrai. Nu dans mon lit, je t'imagine pister mes odeurs avec ton gros chien blanc, toqué à ma porte, que je t'ouvre et que tu me vois nue devant toi, que tu demandes si tu peux toucher ma poitrine, que je te dise oui, que tu me demandes si tu peux caresser mon visage, que je te dise oui, que tu me demandes si tu peux caresser mes cheveux et les sentir, que je te dise oui, que tu me demandes si tu peux m'allonger sur mon lit, que je te dise oui, que je te dise oui partout. Tes doigts, ton t-shirt transpirant que je retire, ta bouche qui trace plusieurs formes sur mon dos comme une œuvre d'art vivante, tu craches sur mon cul pour le décrasser de ta main, avant de plonger ta langue dans mon trou et moi de soupirer, murmurer ton nom imaginaire que nul ne doit connaître pour que ne disparaisse la magie. Ta langue dans mon cul et tes doigts caressant mon périnée pendant que nos chiens jouent ensemble. Ta langue dans mon cul dirige mes yeux vers le plafond que je trouve pour une fois beau durant le sexe. Une estampe marine qui se cache derrière le blanc apparent dans mon appartement. Je te dis que je ne veux pas de ta bite, juste de tes doigts. Que tu lubrifies tes doigts glissants comme un savon égaré dans l'évier de la salle de bain. Tu prends ma prostate, je m'écarte, je soupire et pleure, de ta douceur mêlée à tes efforts, sur mon cou, ta bouche, j'ouvre les yeux. Dans l'espace se dessine ma seule solitude, mais dans ma tête tournent tes bracelets de coquillages attachés à tes mollets. Allez, un dernier, mais il est triste. Hein. Il est très triste. L'amante autodésignée. La pluie efface les poussières de ton prénom que j'avais laissé sur la fenêtre. J'avais envoyé tant de gestes aux étoiles pour que cette rencontre ait lieu. Mais les étoiles sont comme les nuages qui écrivent d'autres phrases. Est-ce que j'ai été aveugle ? Est-ce que j'ai mal réglé la focale de mes lunettes ? Réglé sur ton sourire ? Réglé sur ta voix ? Réglé sur tes mots ? Toi-même, dans les soirs de pleine lune, tu me disais des mots qui traçaient les contours de multiples cercles dans lesquels j'écrivais moi-même une histoire en respectant l'ordre des vents, l'ordre de tes vents. Sais-tu que j'ai voulu goûter à l'eau de ta bouche ? Sais-tu que j'ai dansé pour toi en secret dans cet autre appartement qu'on m'avait prêté ? Que reste-t-il de ces mots échangés ? Même si je les ai effacés, ils s'accrochent à ma mémoire. S'accrochent à ma mémoire comme cette promesse de ta main sur mon dos pour calmer l'angoisse et la solitude qui me prennent au réveil. S'accrochent à ma mémoire comme cette promesse de nos narines qui auraient pu explorer nos odeurs et chercher les plis où se joue ce qui gémit. S'accrochent à ma mémoire comme cette promesse de mes yeux qui se plongent dans les tiens pour écouter tes nombreuses histoires. On parlait de romance lesbienne. Il n'y a pas de romance. Et s'il y a quelque chose de lesbien, ce serait du drame. Un drame banal et très franchement trop attendu. Le drame lesbien de la distance, de l'envie et de la jalousie. Le drame lesbien du silence et du déséquilibre. Le drame lesbien du souvenir de ta respiration sur mon cou. Le drame lesbien de mon cou qui demande encore ton souffle. Le drame lesbien de mes yeux qui demande encore la perfection de ta silhouette et l'ombre qu'elle déploie sur l'asphalte brûlant du mois d'août. Le drame lesbien de la naissance des méduses à l'intérieur de mon ventre quand je pense à ton prénom. Le drame lesbien des larmes que je contiens quand je l'imagine, elle, si parfaite, comme toi dans tes bras. Ce drame donc banal et tant écrit par tant d'écrivaines. Est-ce que c'est cela qui fait de moi une lesbienne? D'aimer tant ton corps et ta voix et tes dents que tu disais vouloir planter dans ma peau. Est-ce que c'est cela qui fait de moi une lesbienne? De ne pas vouloir laisser effacer ton prénom parmi la case des expériences décevantes, parmi ce qui n'a pas eu lieu, parmi le non-avenu, parmi le non-recevable, parmi ce qui n'a pas d'autre forme que celle de l'absence, dans laquelle je suis sculptée par tes mains douces, quand elles caressaient ma paume lors des retours de fête. Le drame lesbien d'un corps lesbien que tu ne veux plus lire. Le drame lesbien d'un corps lesbien que tu frontières. Le drame lesbien d'un corps lesbien qui prend le mur contre son dos pour répondre au manque de tes doigts. Je t'imagine parler de moi à tes amis, comme celle qui voulait dormir avec toi. Et encore une fois, tu te trompes. J'étais celle qui voulait te voir te réveiller, émerger de ta couette et irradier ce soleil qui se cache, intimidée par le sombre clair de ta chevelure qui attrape l'air pour en faire son serviteur. J'étais celle qui voulait t'apporter un plateau avec les plus beaux mets, je voulais être la privilégiée de ton visage matinal. Je n'ai que voyagé pour te voir. Drame lesbien d'un regard brisé par un changement de perspective. Drame lesbien d'un regard brisé d'avoir pleuré ton prénom. Je n'ai jamais été très compétente pour les deuils. J'ai simplement caché tes mots dans ton enveloppe comme un retour à l'envoyeuse, dialogue, d'une table de ping-pong à demi ouverte, une balle pour remplir le temps long, une balle pour conserver la possibilité du fond, signal réglé sur une fréquence vide, émettrice de sons sans couleur, réceptrice de sensations sans douleur. Lisible qu'à ma propre lisière, je me prends moi-même pour cible et je deviens mon propre désert. C'était un abri que je cherchais. Chaque jour je lutte, chaque jour j'invente des histoires pour ne pas tomber. Tous ces amoureux qui s'embrassent, toute cette hétérosexualité envahissante, tous ces panneaux qui augmentent la solitude, mes besoins d'image sont insatiables. On pourrait me dire de chercher ailleurs, mais les ailleurs sont encore à construire. Ailleurs, c'est le mot pour s'avouer que nous n'avons pas encore de maison, que les appartements nous compriment dans des sachets de solitude solubles un milliard de fois dans les rivières du déni. C'était un abri que je cherchais, et c'est un abri que tu as voulu me donner. Mais tout est trop lourd ici. Même les abris nous écrasent. Tout est trop lourd ici. Même les abris nous affament, condamnés à naviguer parmi nos émotions à grande vitesse, sans possibilité d'escale, sans intermède. Ce n'est pas une performance. C'est une pièce qui ne s'arrête jamais. Un film qui tourne, même quand mes yeux se ferment, pour une audience invisible qui applaudit à chacune de mes angoisses et qui rit quand je crie. J'étais l'amante autodésignée d'un rêve dont j'avais rempli la valise. Dans ce rêve, il y avait la couleur du papier peint, le nom du chien, et nos chambres séparées pour écrire. Amante autodésignée, j'ornais mes yeux, j'embellissais ma voix de tes mots et rejoignais l'amie en convoquant ton prénom. La nourriture des amantes autodésignées sont les mots, ce sont les photos qu'elles prennent pour leur solitude, et y ajoutent des légendes pour leur mythologie crépusculaire. La nourriture des amantes autodésignées, c'est la logique qu'elles se construisent afin que la douleur s'amenuise et ne soit plus qu'un copeau de bois perdu dans un tas de sciures. Les amantes autodésignées ont les rochers comme refuge. Les amantes autodésignées sont celles qui portent les contradictions de leur amour à l'intérieur de leur ventre. Tu es si géniale que c'est toi qui m'as donné le cadeau ultime et précieux qui diminue ta présence. C'est l'image abortive de ton corps qui se tourne vers celui de l'ennemi pour ignorer mon silence de détresse et d'impuissance qui a gagné la partie. Mon corps sans possibilité d'enfant sent maintenant se désagréger petit à petit ce que tu avais appelé la vitigue digitale que tu voulais féconder en moi. Et doucement, cet enfant, je le noie pour que de ces bulles d'agonie apparaisse une écriture sans genre, sans destinée. Je rends aux méduses l'être de leur brûlure. Je redeviens la lesbienne solitaire qui dénoue la ceinture de sa gorge, qui dévore les échos en morceaux de ses traumas divers. Et je glisse dans mes rêves, au défi de tes privilèges.
Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions ? Auquel cas, je fais passer le micro, ou pas.
Interrogé par Al, trop bien.
Je peux poser une question sur l'écriture. Peut-être une question en plus en mode 2 en 1. Bon, déjà, j'ai adoré. Je trouve qu'il y a un truc super éloquent et c'est vraiment une poésie qui tabasse, quoi. Ouais. C'est le cas de le dire. Et très oral aussi. Enfin, ça prend énormément de sens, j'ai l'impression, quand tu le lis. Et donc, ma question 2 en 1, c'est déjà peut-être parler de ce rapport à l'oralité. Comment, j'imagine, ça peut rentrer dans tes processus d'écriture, c'est-à-dire d'en passer souvent par toi-même oraliser tes poèmes pour peut-être les retravailler. Et la deuxième question... qui est une question qui m'intéresse super dans l'écriture, c'est que comment on fait pour retranscrire une émotion. Là, il y a quelque chose de très immédiat dans ce que tu transmets, et je trouve qu'il y a une vraie différence entre, par exemple, lire de la colère ou lire quelqu'un qui essaie d'écrire de la colère. Quand on voit qu'il y a un procédé ou que il y a une intention qui est je vais écrire de la colère, mais que c'est visible pour moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. Mais quand ça arrive de façon immédiate, où il n'y a pas cet intermédiaire là. Que j'ai vraiment accès directement à l'émotion. Mais ça, je trouve que c'est très dur, et c'est comment toi tu peux réussir à, dans ces moments d'écriture, à réactiver des choses de l'ordre de l'émotion pour retrouver cet état de justesse qui est le moment de quand on ressent. Voilà. Si tu veux bien répondre à ça, ces deux questions-là.
C'est pas la question la plus facile du monde, mais. Alors, l'oralité. On pourrait en parler longtemps, mais... je vais faire un peu mon intello, parce que j'ai eu un master en art du spectacle, tout ça. Mais une fois que je peux le glisser quelque part, que ça serve à quelque chose, autant le faire, quoi. En fait, moi, j'ai vachement été influencé par le travail de Henri Méchonic sur justement la question de l'oralité. C'est-à-dire que l'écriture, s'il n'y a pas une voix derrière, c'est foiré, quoi. Qu'il y a vraiment un truc que ce qui fait poème, c'est la voix, etc. Donc non, j'ai pas un gueuloir à la... Je sais plus comment il s'appelle, Flaubert ? Non, je sais plus. Un type qui criait comme ça. Enfin, bref, j'ai pas un gueuloir. Ça fait un peu folle, mais ça écrit dans ma tête un peu, tu vois. Donc du coup, les mots se précisent un peu au fur et à mesure, quoi. On va dire, c'est ça, une espèce de Joyce qui se ventriloque toute seule, tu vois. Enfin, un truc comme ça, quoi. L'émotion. Moi, me concernant, justement, je sais pas si ça répond bien, mais ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie de me concentrer sur le moment. Sur les images qui sont liées à ce moment, les sensations. Je parle de fenêtres au début, enfin, il y a tout un décor que je pose, quoi. Et du coup. J'ai un peu parlé de mon travail actuel. Là, je suis en train d'essayer d'écrire un roman expérimental autour de la figure de Cathy Hacker. Et Cathy Hacker, c'est une personne qui vraiment plaçait les émotions au centre. C'est-à-dire que même les émotions pour elle doivent motiver et diriger le processus de pensée. Donc, je suis contente que tu relèves ça, parce que ça veut dire que je suis sur le chemin, quoi. Mais la question des émotions, là, cet endroit-là, c'est presque théâtral, quoi. C'est presque un truc de se mettre dans une situation, de chercher la situation... Tout en étant en distance, parce que quand t'écris, il faut que tu sois en distance, je trouve. Essayer de restituer ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Voilà. et aussi piqué un peu dans la pop, dans la culture pop, des refs et tout qui parlent, tu vois. Par exemple, la naissance des méduses, c'est la naissance des pieuvres, sauf que j'ai mis méduses à la place, quoi, tu vois. Genre... enfin, bref, voilà. Je sais pas si ça répond.
D'autres questions?
Allez, vas-y, vas-y.
Moi, c'est pas vraiment une question. Je voulais juste te remercier pour cette lecture parce que bah, ça fait bien longtemps que nos vies se sont croisées et ça fait bien longtemps que je te lis. Et des fois, tu m'as chanté des chansons, des fois, j'ai lu tes textes, mais je t'avais jamais entendu les lire. Et effectivement, ça prend une dimension. Il s'agit d'autre chose presque. Voilà. Donc, je voulais te remercier de ce moment de lecture.
Bon, bien, merci beaucoup pour ce beau moment et bonne soirée.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Ben bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.